Chers amis à l'écoute, au ciel, nous avons une multitude d'amis, connus et inconnus. Parmi eux, Saint François d'Assise. Nous allons à sa rencontre à travers un ouvrage de Félix Timmermans, La harpe de Saint François. Le soleil avait plongé, pareil à un poisson d'or. Et au-dessus de la petite église de Notre-Dame, solitaire et comme oubliée dans le bois, soudain plana une belle et douce musique. Un berger, qui passait par là avec ses moutons, l'entendit au moment où il allait jouer sur sa clarinette une chanson pour la Vierge. Il leva des yeux surpris vers le toit effondré. Mais il n'y avait rien à voir là qu'un reste de jour éteint. Aurait-il un ordre à présent, pensa-t-il. Il poussa la petite porte et regarda à l'intérieur. Il y faisait obscur et tranquille. La musique vient donc du dehors, se dit-il. Il sortit et de nouveau leva les yeux. Et voici que les moutons eux aussi écoutaient. Vous pouvez remarquer ça à leurs yeux. Là-haut, la musique devenait de plus en plus pure et sans voix s'y entrelaçait comme des lianes. Dieu que c'est beau! Beau à mourir. Cela, il faut que je le raconte à monsieur le curé, se dit-il à part soi, car il ne pouvait plus parler, tant son émotion était grande. Son cœur lui disait ce qui arrivait. Il ôta son chapeau, alla se mettre à genoux et bégaya. Des anges, des anges! Ses yeux s'emplirent de larmes et ses petits moutons s'agenouillèrent leur tour. Le soleil avait déjà disparu derrière la montagne lointaine. La vallée avec ses rivières et ses vignes était déjà bleu sombre. Mais Assise, cette petite ville blanche au noir cyprès, à mi-côte du mont, était encore rose de lumière. Il régnait un grand silence, comme si l'on attendait de la musique. En des moments pareils, il se passe parfois de belles choses. Cette fois aussi, un homme grand et maigre franchit la porte de la ville et il ne portait sur son corps nu qu'une peau de mouton usée, le bras droit tendu devant lui, l'index levé comme de quelqu'un qui prêche, un sourire aux lèvres, d'une voix musicale il cria dans le silence de la ville. Voici que vont venir la paix et la bonté, voici venir la paix et la bonté. Ainsi il monta par les ruelles, par les placettes, devant les fontaines et les églises. Des gens sortaient de leur maison, mais ils ne tournaient point la tête. Il allait toujours droit devant lui, vers le sommet de la montagne, jusqu'à ceux qui disparut de l'autre côté en chantant. Ensuite, vers le moment où l'on tarde encore un peu d'allumer la lampe, sortit d'une ruelle obscure un petit vieux habillé en pèlerin. Il était aveugle et on ne voyait que le blanc de ses yeux. Mais sans hésitation, tout comme quelqu'un qui y voit, il traversa la placette du Saint-Esprit et se dirigea vers la maison du marchand drapier Pierre Bernardone, qui avait épousé l'an dernier une noble française du Midi. C'était un beau et riche magasin avec des petites colonnes. Le pèlerin frappa à la porte, et tandis qu'il attendait, sa prière faisait trembloter sa barbe. Il tenait les mains ouvertes comme un mendiant. La servante, une petite campagnarde, rougeau des simples, vint ouvrir en hâte. On pouvait entendre une femme qui geignait à l'étage. Mais avant que la bonne eût rien dit, l'aveugle l'annonça. « Dites à Madame Bernardone d'aller à l'étable. Là seulement son enfant peut naître. Ainsi le veut notre Seigneur. » Et il s'en alla, ses yeux blancs vers le ciel. La servante en 2 secondes fut là-haut et de raconter avec joie à en perdre haleine qu'un petit moine aveugle avec de la lumière autour de la tête était venu dire de la part de notre Seigneur que l'enfant devait naître dans l'étable. Et ceux qui étaient dans la chambre, le docteur, la sage-femme, madame toute souffrante dans son lit, et quelques-unes de ses amies, éprouvèrent tout de suite beaucoup de vénération pour ce que racontait la servante. Car ils étaient tous bons catholiques, et le docteur avait eu jadis l'idée de se faire religieux. D'ailleurs, jusqu'à présent, ils avaient essayé en vain médecine, vœux, prière. Et madame souffrait tant. Et monsieur était si loin, en France, pour son commerce. Le récit de la bonne fit naître un peu d'espoir. À l'étable, dirent-ils l'un après l'autre. Oui, à l'étable, gémissait madame, car j'ai fait un songe. Ce petit moine, n'avait-il pas des ailes? Probablement, dit la servante, mais je ne les ai pas vues. Alors, avec beaucoup de peine, le docteur et la sage-femme aidèrent madame à descendre. Les amis suivaient, portant les linges et les cruches d'eau chaude, et la servante portant le bénitier de cuivre. Ils traversèrent la maison, puis le jardinet qui brillait plein de roses de septembre. Et là, dans l'étable, sur une botte de paille fraîche à la lueur d'une chandelle, l'enfant naquit. Et ce fut aisé comme une chanson populaire. C'était bien la peine de faire tant d'ennuis, dit la sage-femme. Cet enfant était François. Il vint au monde dans une étable, et le voilà aussitôt lavé par la sage-femme, emmailleté et couché dans une crèche à côté de la mère qui, de fatigue et d'aise, s'était endormie. Tous regardaient, remplis d'admiration. Merveilleux, merveilleux, murmura le docteur, et il leva les yeux vers le plafond obscur. La servante rit. C'est comme dans l'étable de Bethléem. Sans bœuf et sans âne, plaisanta la sage-femme. Mais il y a eu quand même un ange, répliqua la servante, et il m'a parlé, et pas toi. Remercions plutôt notre Seigneur, avertit le docteur religieusement. Il se signa, tous se signèrent, et ils prièrent main jointe. Mais la bonne s'agenouilla pour prier. François et ses amis revenaient en chantant au clair de lune d'une fête de village. Il était à cheval et jouait de la mandoline, et deux hommes précédés portant des torches. Ainsi, ils entrèrent dans la petite ville endormie. Là, ils recommencèrent à chanter haut des chansons satiriques contre Pérouse, une ville éloignée de deux lieues qui cherchait Noise assise depuis longtemps. François fit signe à ses amis de se taire et cria. « Assez de chansons grossières, maintenant c'est l'heure de l'amour. Nous allons donner la sérénade à toutes nos belles. Nous commencerons par Mariette, la belle de notre ami André. » André était un petit peintre pauvre et fier, au visage angélique, qui mangeait aux mains de ses nobles amis, et Mariette était la fille d'un sculpteur de crucifix. La maison se trouvait dans une petite rue étroite et montante, en face du mur d'un jardin de couvent. Du haut de son cheval, François y chanta lentement une chanson d'amour française qu'il avait apprise de sa mère. La mandoline jetait des étincelles de son. La voix claire du jeune homme résonnait haut, par-dessus les toits. Tout à coup, une fenêtre s'ouvrit brusquement et le père de Mariette hurla. « Dites donc, maigre seigneur Bernardone, laissez donc à votre triste compagnon lui-même le soin de ses messages. Ça me donnera l'occasion de lui apprendre comment il pourra prendre des yeux au beurre noir. Mauvais farceur, comédien, bouffon, freluquet, allez-vous-en, sinon je vous inonde. Dès demain, je porte plainte au juge contre vous et vos amis. » Mais les amis se prirent à crier, à hurler, jusqu'à ce que tout à coup un paquet d'eau s'abattit sur eux. Et là-bas, le veilleur de nuit arrivait qu'à un quart. Et nos farceurs de courir. Ils s'égayèrent par diverses ruelles. François entendait encore Théodore crier au loin. « À la rose ! Là, il y a du vin puissant et des filles fragiles. Nous allons tout y casser, comme la semaine dernière. Et c'est moi qui paierai, comme toujours, » grommela François entre ses dents. Il ne les suivit point. Il prit le chemin de sa maison. Pour aujourd'hui, cela pouvait suffire. Il avait bu, dansé, embrassé. Demain, il irait à la chasse avec les châtelains. Après-demain, chez Arnold, fête d'escrime, suivie d'un dîner exquis. Dimanche prochain, réunion chez lui-même. Il lirait ses dernières poésies. Le soir, bal travesti de mi-carême. Lundi, il partirait avec son père pour un voyage de 15 jours à Florence. Vive la jeunesse! Il ôta sa toque devant une madone peinte sur un mur. Il s'arrêta une minute à la regarder. Devant cette image, une petite gerbe de fleurs se fanait. Lui, n'avait point de fleurs. Mais attendez, il brisa la plume d'autruche blanche de sa toque et la laissa choir auprès des fleurs. « Amour, amour, » dit-il en se remettant en route, « quand donc connaîtrai-je moi aussi l'amour qui m'arrachera à mes parents, à mes amis, à moi-même, un amour qui consume et dévore ?» Il eût voulu se dire encore bien des choses, mais il était arrivé. Il vit la lune, haut dans les airs, scintillante. « Je suis l'amant de la lune, » dit-il, « j'aime l'inaccessible. » Tout à coup, l'envie le prit de revêtir son habit blanc de troubadour, suspendu dans la garde-robe, en proie au mythe, et de donner à la lune une sérénade. Mais il se retint à cause de son père qui se moquait de ces choses. « Et pourtant, je deviendrai un troubadour errant, » dit-il, obstiné, « un des plus grands, grand comme Divini. Bonne Sainte Vierge, obtenez-moi cela, vous, s'il vous plaît. » La foire annuelle. La ville était bondée de monde. François, parfumé de lilas frais, était debout derrière le comptoir et ses doigts chargés de bagues d'or au nez du damas pour la mère et la sœur de son ami Arnold. D'autres clients attendaient. Un domestique solide et Angelo, le petit frère grassouillet, l'aidaient à déballer et à servir. Le père était dehors, devant la porte, où s'entassaient également des pièces de drap sur des rayons. Il causait avec deux marchands de laine. Il faisait de grands gestes et riait comme une trompette. Parfois, de ses lourdes mains, il leur tapait énergiquement sur les épaules. François aimait l'entendre parler ainsi, mais aujourd'hui il n'avait pas le temps. Il lui fallait encore aller acheter de la truite fraîche pour le petit festin de demain. « Allons, servons vite ses clients, et puis à cheval, voir les pêcheurs au bord de l'eau. » La rue était pleine de rumeurs. La guerre imminente contre Pérouse flottait gaiement dans l'air. Des mendiants en masse. On n'avait pas assez de ses deux mains pour faire l'aumône. En voici encore un. Un air demi-nu, chauve jusqu'au talon, un cep d'os et de tendons. Il s'appuyait sur un solide gourdin. La puanteur de sa misère entrait comme d'un cloaque. Pour l'amour de Dieu. Mais avant qu'il eût pu tendre la main, François, excédé par l'odeur et pressé à cause de son poisson, lui cria « Nous n'avons pas le temps !» Le mendiant s'en fut en clopinant. Aussitôt, les clients se mirent à parler des quêteurs. Tous des fainéants et des espions. C'était eux qui rendaient la vie chère. C'était eux la cause de la guerre. « Ah, cette guerre, j'en serai !» s'écria François. Et il brandit le poing comme s'il serrait un glaive et ses yeux sombres brillaient comme les pierres de ses bagues. Il n'écouta pas davantage. Ses pensées retournaient à ce mendiant. Il commençait à regretter amèrement de ne lui avoir rien donné. Il avait faim peut-être. « Moi, je vais manger de la truite et j'étincelle de joyaux. S'il était venu au nom d'un comte, je l'eusse aidé tout de suite. Il est venu au nom de Dieu et je l'ai chassé. » Le remords se fit si puissant, si brûlant, que François ne put plus se contenir. Soudain, il prit dans le tiroir une petite bourse pleine d'argent, pria les clients d'attendre une minute et courut après le gueux, mais il ne le trouva point. Et il devait le trouver à tout prix. « Je ne retourne pas chez moi tant que je ne l'ai pas retrouvé, » dit-il. Il s'informa auprès de chaque passant qu'il connaissait. Il chercha toute la matinée, par les ruelles, dans les églises, le long des échoppes et au marché aux bestiaux, entre les vaches. À la fin des fins, il l'aperçut là-bas. Le gueux mangeait un vieux croûton de pain qu'il trempait dans l'eau d'une fontaine pour l'amollir. François lui donna la bourse. « Voilà l'aumône avec l'intérêt !» Il demanda très poliment pardon au mendiant. Sous cette bourrasque de bonheur, le pauvre diable suffoqué, incapable de mots dire. Mais quand il vit François parti, il risqua un regard dans la bourse et il se prit à rire comme un enfant. « Quel fou » cria-t-il, « quel fou ! Mais tant pis pour lui !» Il lâcha son énorme gourdin et s'introduisit à coups de coude dans une bonne auberge pour s'empiffrer de gigots. Heureux, François rentra en hâte chez lui pour s'occuper de l'achat des truites. Il se promit de ne plus jamais refuser l'aumône à un pauvre. Sur la grande place, un autre mendiant se fraya un chemin dans la foule jusqu'à lui. C'était un petit homme poilu, une espèce d'ermite des grottes. Sa robe était roide de boue sèche et coagulée. Il se planta devant François, les bras étendus. Puis il jeta par terre son manteau en loques, comme un tapis sous les pieds d'un prince. François hésita à marcher dessus. « Je viens de donner tout, » dit-il. « Je ne vous demande rien, » dit le petit homme. « Ce que je fais, c'est par vénération, car bientôt vous accomplirez de grandes choses dont on parlera jusqu'à la fin du monde. » François tressaillit de bonheur et devant la foule, il marcha fièrement sur ses haillons. Alors il se retourna et jeta à l'ermite deux de ses bagues d'or. Les petites rues ronflaient du bruit des glaives et des piques qu'on aiguisait. Et par un matin rose, dressé comme un autel au-dessus des montagnes, la longue armée, bannière au vent et harnais luisant clair, s'en alla au son des trompettes par l'étroite porte de la ville. Là-bas, ceux de Pérouse arrivaient aussi. Les deux armées se déployèrent. François jubila. Et les armées se heurtèrent comme deux murailles dans une clameur formidable. Il s'enfonça tout droit dans la mêlée et le sang. Il leva le glaive afin de pourfendre un chef pérugien. Mais alors il reçut dans la nuque un coup si violent qu'il dégringola de son cheval cabré. Il se réveilla dans un sombre cachot percé d'une lucarne. Quelques chevaliers et nobles d'assises s'y trouvaient. L'avait-on pris lui aussi pour un chevalier ? Il en éprouva de l'orgueil. Il reconnut Arnold et Théodore, qui lui racontèrent que le petit André avait été tué d'une flèche en plein cœur et que les Assisiens avaient perdu la bataille. Tous ces prisonniers avaient l'air tristes comme un jour de novembre. Triste, François le fut les deux premiers jours. Mais ensuite, dans sa tristesse, du soleil filtra. « Que neige ma mandoline ? Je chanterai quelques chansons. » Mais il fit comme s'il l'avait et comme s'il en jouait, et il chanta. Il chanta Roland au cor retentissant, Tristan et Iseut, et toutes les chansons qu'il avait apprises de sa mère et des troubadours français. Un vieux chevalier trapu, qui portait un bandage sanglant sur l'œil droit, lui dit de se taire. « Insensé, grommela-t-il, est-ce le moment de chanter ? On ne chante pas au cimetière. »« Si fait, cria François, ne serait-ce que pour distraire les morts. » Il se reprit à chanter la guerre et l'amour, et surtout la nature dont il éprouvait si fort la nostalgie. Les chevaliers étaient mécontents, mais ils chantaient si bien, avec tant d'âme et de sentiments, qu'il émut tous ses cœurs et que de douces larmes d'attendrissement coulaient sur leurs joues non rasées. Et l'œil intact du vieux brillait, et il accompagnait le refrain, grave comme un bourdon. À la fin, tous chantèrent avec lui en un cœur à trois voix. Il y en eut un qui se mit à genoux, le visage caché dans ses mains. Alors François comprit plus clairement que jamais qu'il avait la vocation de troubadour pour semer partout la joie. Il s'endormit sur cette résolution, douce et forte à son âme comme du lait. Dès lors, il chanta chaque jour l'aubade, amusa ses compagnons en déterrant les chansons les plus drôles et ne se couchèrent plus avant d'avoir chanté ensemble la prière du soir. Leurs habits s'usèrent, mais point leur cœur. Et après une année passée ainsi, à ouïr contes et chansons, ils reçurent un jour la visite d'un officier qui vint leur lire sur un rouleau de papier que la paix était signée et qu'ils pouvaient retourner chez eux. « Ne rentrons point tête basse !» cria François quand ils furent arrivés sous les murs d'assises, du haut desquels le peuple les acclamait déjà de loin. Ils étaient hirsutes, hâves, déguenillés, mais ils passèrent sous la poterne avec un chant joyeux. La foule applaudit et pleura. Quand François rentra dans la maison paternelle, la table était déjà dressée. Poulet de grain, vol au vent, macaroni, anguilles à l'huile, flanc aux pruneaux et aux œufs, vin, brioche, tout cela sentait bon et alléchant. Et comme il embrassait sa mère, le père était en voyage, et qu'il demeurait suspendu contre son sein, sanglotant, ses genoux fléchirent. Sa faiblesse accumulée le faisait s'écrouler comme une tour de bobine. On l'étendit sur son lit, il y resta couché entre vie et mort. Sa vie était suspendue à un fil. Deux gros cierges brûlaient devant la Madone. La mère priait, les bras en croix, et le père, revenu, porta à Monseigneur l'évêque deux pièces du drap écarlate le plus précieux. De grâce, Monseigneur, faites qu'il guérisse. Je vous donne tout mon magasin. Si je le perds, je perds tout. Il m'est plus cher que la lumière de mes yeux. Il est tout mon espoir et tout mon orgueil. Nous prierons pour lui, répondit Monseigneur. Au fait, que voulez-vous qu'il ajoutât ? Le docteur, le même que jadis, mais chenu maintenant, comme enneigé, dit avec confiance en vrai chrétien, laissez faire le bon Dieu. Je peux me tromper, mais je persiste à croire que ce n'est pas sans raison qu'il l'a fait naître dans une étable. François s'était remis lentement et aujourd'hui, par ce temps doux et clair, il pouvait sortir pour la première fois. Il se tenait encore mal sur ses jambes, s'appuyait sur une canne. Il s'était fait faire pour la circonstance un habit neuf, le fierro, le freluqué, un habit jaune aux reflets pourpres. Il sortit, pareil à un arc-en-ciel, vers la campagne, vers la pleine nature dont il avait dû si longtemps se priver et qui le guérirait tout à fait pour qu'il devienne enfin un vrai troubadour. Les gens étaient franchement heureux de le revoir. Ils disaient une plaisanterie et lui recommandaient de bien manger pour reprendre des forces, car sans lui, la ville s'endormait. Il fut heureux de ne rencontrer point d'amis qui, par politesse, s'offrit à l'accompagner. Il désirait être seul, jouir tout seul de la nature recueillie. Il le savait d'avance. Là, il tomberait à genoux. Il chanterait et crierait sa joie, les bras étendus. Il se voyait déjà assis dans les beaux plis de son manteau de velours. Et lorsque, heureux et fatigué, il fut arrivé derrière la colline, là-bas, près de la petite église délabrée de Saint-Damien, d'où il n'apercevait plus rien de la ville, et qu'il vit devant lui, dans toute leur beauté, ces étendues de printemps et de fins horizons, ses bras demeurèrent comme paralysés le long de son corps. Était-ce là la nature ? Désenchanté, il s'assit dans l'herbe, en soupirant, et demeura penché en avant, la tête dans ses mains. Cette nature, qu'il avait si ardemment désirée pendant sa captivité et sa maladie, il la voyait dans sa jeunesse et sa splendeur. La jeune pousse dans les vignobles et les pâquerettes à ses pieds, les Apennins sur leur neige éternelle, loin, très loin, comme un rêve nacré. Il voyait des vols d'oiseaux, il humait l'odeur du printemps. Il apercevait sur les montagnes les châteaux aux tours pavoisées et le sous-basio qui montait dans le ciel derrière Saint-Damien. Et sur tout cela, le soleil. Il voyait, sentait, entendait tout cela, mais son cœur demeurait clos. « Est-ce là la nature ? » soupira-t-il. « Ah, que tout cela est pauvre, et qu'il est pauvre celui qui peut s'en contenter. » Ses yeux étaient dessillés. Il voyait soudain toute chose d'une manière nouvelle, comme retournée. Comment ? Pourquoi ? À cause de sa maladie ? À cause de quoi ? Tout lui parut vide et creux. Son désir des lointains s'effondra, et comme cela se passe toujours, la mort d'un désir entraîna celle d'un autre, et au bout d'un quart d'heure, tout ce qui avait fait chanter et briller sa vie gisait là, dégonflé. Il eut honte de lui-même, d'avoir été naguère un joyeux garçon qui avait profité du plaisir et des bonnes choses et du monde. Que valaient ces habits précieux, ces bagues d'or, ces gemmes, ces fêtes, ces poèmes, cette tunique, cette musique, ces amis ? Des fables tout cela, pour emplir et dorer le vide et la vanité du monde. Ne peut-on être en chemise de laine
aussi heureux qu'en chemise de soie, ou même sans chemise. Sans pensée et sans voix, il contempla le glorieux couchant. Il regarda les étoiles naissantes, et alors il songea à Dieu. Dieu est l'unique, soupira-t-il. Mais cette pensée, venue comme une bouffée de parfum, comme un parfum, s'évapora. Naturellement, il n'avait pas l'habitude de penser à Dieu. Pourquoi suis-je là, se demanda-t-il, sans élan, sans joie, comme un violon sans corde. Il reprit en flânant le chemin de la maison. Il repoussa doucement les gâteaux et le vin que sa mère lui offrait. « Qu'as-tu, François ?» lui dit la mère. « Tu es là tout affaissée. Tu vas plus mal ?»« Non, maman, j'ai grand sommeil. » Il monta se coucher. « Ah, pouvoir dormir et dormir à jamais et ne plus rien savoir. » Mais il ne put fermer l'œil sur son oreiller bordé de dentelles de Venise. Il sanglota doucement, sans larmes, las de vivre. Il était brisé et agité comme si quelque chose était à sa poursuite, quelqu'un de présent et d'invisible. Tantôt, il désirait être seul dans le silence des monts, et alors il voulut s'y enfermer dans quelque grotte pour se cacher, échapper à cette chose qui le suivait partout. Tantôt, il se jetait de nouveau dans la vie orgiaque des amis, mais l'étau ne se desserrait point autour de son cœur. Alors il s'appliqua, avec une obstination rageuse, au commerce du drap pour s'enlacer bientôt et se remettre à composer des vers. Mais il laissa tomber la plume presque aussitôt et il soupirait, toujours le même soupir. À quoi ça sert-il? Ah, si j'avais une belle et bonne amie, une demoiselle pour qui l'on fait des folies. Mais la plus jolie fille le laissait froid. Il était las de vivre, sans savoir pourquoi. Il avait peur, sans savoir de quoi. Et ses insomnies. Sentir toujours sur soi ce poids de plomb. Il n'en disait mot à personne. Pour esquiver les questions embarrassantes, il parla de douleur d'estomac. Mais sa mère, pareille à toutes les mères, sentait fort bien que c'est à l'âme de son fils qu'il clochait quelque chose. À toutes ces questions prudentes, car il s'énervait vite, il faisait des réponses assez piteuses. Et quand elle en parlait au père, celui-ci déclarait « Il a du vague à l'âme, tu l'as trop gâté pendant sa maladie. Que je lui trouve une jolie fiancée et tout cela passera. Je vais chercher. » De ce côté donc, la pauvre maman ne trouva point de paix et elle aussi traînait seule sa peine. Mais une fois, vers la tombée du soir, le père, rentrant d'un voyage, apporta la grande nouvelle d'une guerre proche. Gauthier de Brienne, un célèbre chevalier du pape de Rome, s'armait contre l'empereur. Tout ce qui avait blason ou fortune s'armait aussi. Car, tonna le père, le monde entier s'y intéresse à cette grande bataille. La guerre entre Assise et Pérouse n'était qu'un jeu de minet, mais celle-ci. Je tiens de haut personnage que celui qui rentrera vivant de ce combat aura son nom écrit en lettres d'or et deviendra baron ou comte. Hola, mon gars ! Et le père posa ses mains velues sur les minces épaules de François. Mon gars, dit-il, si tu as du sang dans les veines, montre-nous ça. Fais-moi vivre la joie d'être le père d'un baron. François, qui pour tuer l'ennui, découpait un oiseau dans du bois, haussa les épaules et ne répondit pas encore. Mais le père se mit en colère et lui cria brutalement qu'il n'était bon qu'à dépenser l'argent dans les orgies, trop paresseux pour s'occuper, trop fier pour travailler, qu'il simulait la maladie pour se rendre intéressant et que s'il continuait de ce train-là, il deviendrait un joli gueux qu'on chasserait de tous les seuils. François se tut. Le père n'en fut que plus furieux et se mit à reprocher à la maman d'être cause de tout. La mère pleura et François dit « Je vais me coucher. » « Tu n'es bon qu'à cela, lui dit le père, qui pour calmer son sang excité s'enfuit à une auberge proche. » La mère prit son livre d'heures et commença de prier. Chose étrange, cette nuit-là, François dormit comme une rose. Et il eut un songe très singulier. Il vit leur maison changée en un vaste palais, mais au lieu d'étoffes et de draps, brillaient partout de beaux boucliers, des armures, des glaives, des bannières, et sur tous ces engins de guerre éclatait une croix rouge. Il se promenait en de vastes salles, et une belle petite fiancée, pauvrement vêtue, qui lui prenait la main, lui dit d'une voix céleste « François, mon bien-aimé, tout cela est pour toi et pour tes compagnons. Arme-toi !» Il s'en réveilla. Le matin paraissait tout juste sur le ciel. Un songe peu beaucoup. Il jette parfois sans dessus-dessous hommes et projets. C'est ce que fit ce songe en François. Il réveilla brusquement l'ancienne fierté. François se voyait déjà luttant aux côtés du célèbre Gautier. Il ne manquait pas ses coups. Des coups drus, il frappait des stocks et de tailles, hachés, fendés, si bien que les éclats volaient par panneret. Il était le vainqueur. On lui apportait des branches d'olivier et en son honneur sonnaient de longues trompettes. Ah, c'était superbe! Il se complut si chaudement dans ses fantaisies que, comme il descendait à l'heure du petit-déjeuner, il cria déjà du haut de l'escalier « Père, je vais au combat, je veux devenir un grand chevalier et je le deviendrai !» Ah, jubila le père qui se leva d'un bond, les bras tendus et la bouche encore pleine. « Mais je veux que tu sois vêtu comme le plus riche baron de 7 lieues à la ronde, mieux même, je te baille un nouveau cheval, un blanc, et à ton retour, grande fête, un festin, et les pauvres aussi festoiront !» Et à la mère décontenancée, il cria « Et toi qui rêvais qu'il entrerait au couvent, qu'en dis-tu à présent de ton moine ?» Il serra François à le rompre contre son corps obèse en pleurant de joie. La mère devint pâle comme cire. Heureuse naturellement de voir son fils si vif, mais à l'idée de guerre, la crainte à nouveau enlaçait son cœur. Le père exhalait sa joie bruyante. Mais Angelo, le petit frère grassouillé, un garçon si égoïste et jaloux, ricana vers François, en gagnant déjà la porte pour éviter les coups du père. « Ah, ça fera un beau chahut. Je parie que cette fois encore, tu te laisseras faire prisonnier. » Le spectacle était deux fois plus beau de tous ces cavaliers armés de pied en cap qui se rassemblaient sur la grande place, prêts au départ. Et oui, c'était vraiment superbe. Mais François était le plus beau de tous. Sur son petit cheval blanc, il se dressait, roide et fier, comme un scarabée d'or, roide d'anneaux, d'écailles et de plaques de cuivre, de grandes plumes au casque, des dessins gravés en noir sur la cuirasse et l'écu, des pierres précieuses incrustées dans le glaive. Son visage n'était qu'orgueil et courage. Les chevaliers s'en scandalisaient, qu'un fils de bourgeois fût plus beau qu'eux. Mais le père n'avait jamais vécu de jour si heureux. Il devait refouler ses larmes. Il embrassait sans cesse les mains de son fils. Quand ils furent partis, il alla glisser de l'argent dans le tronc de l'église. Il chevauchait par les monts. Les nobles ne lui adressaient aucune parole. Il l'évitait. Lui ne s'en apercevait point tant il était plein de joie et de rêve. De temps en temps, près d'un castel ou d'un bourg, quelques chevaliers se joignaient à la troupe. À un carrefour attendait un chevalier qui avait l'air misérable. C'était ce vieux capitaine qui avait été le compagnon de captivité de François, ce borgne que les chansons de François avaient d'abord irrité. Il serra la main à son jeune compagnon et ils chevauchèrent de concert. Le chevalier expliquait la signification de cette guerre. François n'écoutait point. Toute sa joie s'écoulait de son cœur à la vue des armes et habits si usés du vieillard. Il eut honte, non du chevalier, mais de soi-même. Il se prit à se comparer à lui. Ainsi, le fils d'un drapier brillait entre tous et ce preux, ruiné par toutes les guerres, était revêtu de fer rouillé. Cela, François ne put le souffrir davantage pour rien au monde. Et une idée résolue l'empoigna. Il laissa les autres le dépasser et quand il se trouva seul avec le vieux guerrier, il lui déclara soudain. « Pardonnez-moi, ô noble chevalier, je n'ai pas écouté vos discours parce que nous sommes ridicules tous les deux. Le valet a l'habit du maître, le maître celui du valet. Nous allons échanger ici nos armes et nos habits. Vous avez à peu près ma taille. Donc, tout va s'arranger à merveille. » Le chevalier borgne eut un éclair de surprise. Il se défendit et refusa avec énergie. François prit feu. « Je le veux » clama-t-il. Et des mains et des dents, il lacéra son riche manteau de soie. « Dussé-je laisser ici ma chemise, je n'irai en guerre tel que me voilà. » À tant de volonté et de franchise, le chevalier ne put résister. Et puis, au fond, il aimait mieux être beau que laid. Ils se cachèrent chacun dans un bosquet, et ils se jetèrent leurs habits à mesure qu'ils s'en dépouillaient. À peine arrivés à la petite ville de Spolète, où attendaient déjà beaucoup de soldats, François se sentit si las et si malade qu'on dut le porter dans une maison sur un lit étroit. Quelque part dans une mansarde où brûlait une petite lampe d'argile devant une madone. Une menue vieille venait de temps en temps lui donner à boire. On eût cru qu'il allait trépasser. On racontait que les nobles lui avaient donné cette maladie pour se défaire de lui. Mais on raconte tant de choses. Pensez donc quel chagrin le lancina quand un matin il entendit les trompettes sonner le départ. Et lui, qui eût tant voulu être de la partie, il devait rester là, couché. Alors il a pleuré comme un enfant. Maintenant que les soldats étaient partis, un grand silence planait sur la ville. Depuis ce jour, il a essayé souvent de partir quand même. Il lui arrivait de se lever et de lasser sa cuirasse. Mais chaque fois, il s'affaissait. Il devait se traîner jusqu'à son lit, où il se prenait à gémir et de rage, se mordait parfois les mains. Mais un jour, vers l'aube, il entendit en songe une voix puissante et il vit une grande lumière au-dessus de la pointe d'un rocher. C'était là, cette voix, c'était elle, et il entendait la lumière lui dire « François, qu'est-ce qui vaut mieux, servir le maître ou le serviteur ?»« Le maître, balbutia-t-il grelottant. « Pourquoi sers-tu le serviteur ?» demanda la lumière. François ne put répondre. Mais soudain, il lui sembla que la lumière traversait son corps. Cette lumière était Dieu. Il tomba à genoux, le front contre terre. « Seigneur, que faut-il que je fasse ?»« Retourne à la maison, » dit la lumière. « Là, il te sera révélé ce que tu dois faire. Tu as mal interprété le songe où tu vis ces armes. » La lumière se tut, s'éteignit et disparut comme dans un brouillard. François se réveilla en sursaut. Il bondit hors du lit, oubliant son mal. « À la maison » cria-t-il. Alors il vit son armure lamentable. S'il allait d'abord se battre avant de rentrer chez lui. Maintenant qu'il était bien éveillé, son cœur ne consentait point à ce rêve. Il s'habilla lentement, fit sortir son cheval de l'écurie et quitta la ville. À un carrefour, il s'arrêta. Par là, le chemin menait à la bataille. Par ici, à la maison. Il devait choisir. Par là, le titre de baron et une vie d'honneur et de gloire. Par ici, la risée et un avenir sombre. Et ceci pour une voix oui en songe. Dieu avait crié après lui. Pourquoi Dieu l'avait-il appelé, lui, qui s'occupait si peu de Dieu? Vraiment peu. Entendre une messe basse de 11h30 le dimanche, faire maigre le vendredi et faire ses Pâques. Il devait choisir entre Dieu et le monde. Il ferma les yeux, crispa les poings. Ainsi se tenait-il à cheval, traversé par le duel entre Dieu et le monde. Un souffle passait sur son âme, quelque chose de l'infini. Il sentait très bien que, en sourdine, le son très doux de cette voix soupirait depuis des années dans son cœur, dans son désir de l'aventure, dans sa fringale de vivre. Une nostalgie de l'inaccessible s'emparait de lui, et sous son étreinte, il cria « Dieu !» Il ouvrit les yeux et jubila « Dieu ! Dieu !» Et ce fut à ce mot comme si son cœur se déchirait de joie et de lumière, et il partit au galop dans la direction d'Assise. Ah, comme on va le huer, comme on va s'amuser à ses dépens. Il voyait déjà son père exploser comme une fusée. Il entendait le ricanement gras de son frère, mais il lui semblait s'en revenir d'une chevauchée parmi les astres. Les huées ne comptaient plus. Et pour en recevoir la pleine mesure, il attendit devant la porte de ville que la foule fût dense dans les rues. C'était à la fin du salut du soir. Et alors, avec une lenteur provocante, comme derrière une procession, il traversa à cheval les rues les plus grouillantes du monde. Chers amis, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui, mais à très bientôt.